Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Nous poursuivons ce soir notre nouvelle série intitulée « Les grandes figures de la médecine et de la science ». Et nous nous intéresserons plus particulièrement à plusieurs figures, aux savants de la Seconde Guerre mondiale. Et ceci grâce au livre de Sébastien Balibar, qui est un physicien français, membre de l'Académie des sciences, auteur de « Savants, cherche refuge », un livre qui est publié aux éditions Odile Jacob et que nous allons disséquer ensemble, en tous les cas échanger ensemble, bien entendu. Merci Sébastien Balibar d'être avec nous.
Merci à vous et disséquons.
Vous avez fait École Polytechnique, École Normale Supérieure, vous êtes membre de l'Académie des Sciences, vous avez eu le prix des trois physiciens. Vous avez eu le prix Fritz London, vous avez eu le prix Jean Ricard. C'est dire que voilà, il y a toute une récompense qui vient d'un travail personnel que vous avez mené, aussi d'une équipe, des équipes. Et vous me disiez tout à l'heure hors micro que vous avez la chance d'avoir un nombre de jeunes qui veulent, en un mot, on va dire ça comme ça. Vous avez fait 200 publications, un nombre de communications internationales. Et des prises de position qui sont intéressantes, on ne pourra pas toutes les voir. On peut en voir quelques-unes parce que vous avez publié pas mal de livres sur le climat, y voir plus clair, par exemple, pour agir. Demain, la physique, je casse de l'eau, la paume et l'atome, enfin. Moi, en voyant tout ça, je me dis, mais quand est-ce qu'il a le temps de travailler, quoi? C'est pas possible, il écrit trop, celui-là. Bon, enfin.
Mais les journées ont 24 heures, vous savez.
Ah, ben voilà. Je me disais bien qu'un physicien allait me pointer le point fondamental. Total, en janvier 19, vous faites un livre, Savant cherche refuge, qui reprend l'histoire des grands noms de la science qui ont survécu, certains d'ailleurs sont cités et n'ont pas survécu, à la Seconde Guerre mondiale. Et je dois dire, très sincèrement, que j'ai été passionné. J'ai été passionné parce que dans ce livre, vous traitez des choses très importantes auxquelles le quidam ne comprend pas toujours, qui est la physique quantique et qui est la bombe atomique. Mais comme vous prenez à partir de personnages dont certains sont vos héros, et un en particulier qu'on va reprendre, mais ces personnages sont des personnages de roman, c'est-à-dire qu'ils ont des aventures, on ne pourra pas tous les voir, et on va renvoyer à la lecture de votre livre, mais franchement, c'est des histoires dans cette période tellement troublée, où les gens vont en exil, les gens sont menacés, les gens sont parfois exécutés, enfin, je veux dire, ou enfermés, hein, parce qu'on va voir qu'on va se promener entre l'URSS, entre l'Angleterre, les États-Unis et la France. On a là des personnages assez extraordinaires, déracinés, en fuite, menacés, réfugiés, et pourtant, il va se développer des pas énormes en avant de la connaissance, et auxquels d'ailleurs, après la guerre, évidemment, vous allez y participer par votre engagement sur une thématique.
Ils ont aussi des moments de bonheur, hein, en particulier leur accueil par des intellectuels courageux, intelligents. Ça a été pour eux un immense bonheur. Simplement, ça a duré quelques mois avant que Daladier, remplaçant le Front Populaire, ils affrontent une terreur, ou au moins une tourmente épouvantable, et qu'ils soient obligés de s'enfuir à nouveau de France. Effectivement, il y a beaucoup de choses. J'ai eu envie d'écrire un récit. C'est un récit, comme vous l'avez dit, à deux personnages. Mais ces deux personnages rencontrent tellement d'autres scientifiques qui ont été chassés par le nazisme vers l'Angleterre, la France et finalement les États-Unis pour beaucoup d'entre eux, que, évidemment, y a des couleurs qui changent dans ce récit. Hein, bon. Et puis des questions fondamentales qui se posent, du genre, comment fait-on pour faire une découverte majeure en science alors que la situation politique ou sociale est dans un déséquilibre pareil?
Alors, il y a un personnage, je crois, qui est le personnage central, qui est Laszlo Tisza, qui est d'origine hongroise, et que vous allez retrouver et que vous allez rencontrer, parce que cet homme-là, il a la bonne intention de vivre 103 ans, et vous allez être invité. Et tout part un peu de là, la structure du livre. Vous êtes invité donc pour ces 100 ans.
Et oui, je me suis permis de laisser passer un peu de mon émotion, d'une part parce que pour des circonstances un peu accidentelles ou particulières, J'ai rencontré ce monsieur d'un certain âge, il avait 93 ans quand je l'ai rencontré.
Et on là, c'était à Paris.
C'est-à-dire que c'est à Paris que, participant à l'Université de tous les savoirs en l'an 2000, qui était celle de Yves Michaud, j'ai rencontré aussi, j'ai parlé de ça avec un Américain du MIT qui s'appelle Dan Kleppner, et qui m'a dit, mais tu sais, parce que je m'intéressais déjà à l'histoire de cet acteur important d'une grande découverte en plein milieu de la tourmente. Et donc Dan Kleppner m'a dit, mais tu sais, il vient toujours au labo à 93 ans, tu devrais lui envoyer un mail. Donc je lui ai envoyé un message électronique, un mail, et à ma grande surprise, il m'a répondu. Et donc on s'est mis à échanger avec ce monsieur de 93 ans sur l'histoire de cette découverte et l'histoire de sa vie finalement. Alors rapidement, je l'ai invité à Paris, on a visité les lieux comme le Jardin du Luxembourg évidemment, mais l'Institut Henri Poincaré, le Collège de France, etc. à Paris,
bon, les hauts lieux.
Ensemble, les hauts lieux. Et s'est construit assez vite une amitié profonde qui m'a permis de regarder en profondeur justement toute cette aventure de cette époque tragique. Et puis il nous a quittés à 103 ans, je crois que c'est 102, mais ça fait rien, dans des circonstances que j'explique dans mon livre.
Oui, parce que donc vous faites le voyage et beaucoup de réflexions pendant ce voyage.
Oui.
Pour aller donc faire un discours qui reprend un peu son historique qu'on va aborder quand même, parce que c'est ça qui compte.
Si je peux me permettre de vous interrompre, je me suis permis à laisser aller parfois mon émotion, et il y a du personnel dans ce livre aussi, ce qui, je crois, ne gâche pas le plaisir de la lecture.
J'ai envie de dire au contraire. Non, c'est un livre, alors d'abord, vous donnez aussi des photos. Dans le livre.
Je me suis battu pour garder ces photos.
Oui, mais c'est très, c'est très émouvant parce que c'est des photos qui ne sont pas d'hier.
Ça change tout de voir la tête d'un jeune homme qui va avoir des difficultés.
C'est-à-dire qu'il y a Laszlo Tissa, il y a Lando.
Il y en a d'autres.
Il y a Fritz London pour prendre les trois que j'ai trouvé principaux. Il y a Kapitsa, on va y revenir.
Il y a aussi une photo très connue, Einstein avec Ehrenfest. Et son petit garçon sur les genoux, quand on sait ce qui s'est passé, écoutez, lisez à nouveau, pas vous, mais les auditeurs.
Moi, je pourrais le relire. Donc, Laszlo Tissa, restons un peu sur lui, parce que c'est le personnage central. C'est un mathématicien, donc à Budapest, il va faire une rencontre avec les maths et la physique quantique, dont on va discuter tout à l'heure pour expliquer à nos auditeurs deux, trois choses de ça. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que c'est quand même quelqu'un qui va passer 14 mois en prison pour être taxé de communisme en 1932. Et qui va rencontrer donc les grands Niels Bohr, Enrico Fermi, et qui va surtout, alors ça j'adore ce début de cette rencontre, quand il va à Kharkov pour travailler avec Lev Landau, qui est très grand chercheur, mais vraiment une tête un peu spéciale, on va dire.
Oui.
Il arrive en Ukraine juste après la grande famine de Holodomor, avec des milliers de morts. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que dans tout ça, bien sûr, il y a une trame, il y a une trappe, il y a tout ce qu'il faut pour tomber. Et puis, voilà, ils arrivent quand même à bouger.
Il a de la chance, de s'en sortir.
Oh ben, mais effectivement. Et London avec son bateau. Là, l'histoire de London qu'on a abordé.
C'est miraculeux.
Mais c'est miraculeux. Il est en Angleterre, il s'est échappé, il est en Angleterre. Ah, il veut prendre le bateau pour aller aux États-Unis.
Oui.
Et on lui refuse pour une question administrative. Et donc, il monte pas sur ce bateau, il prend le suivant. Et le premier bateau sur lequel il aurait dû être est coulé
par un
sous-marin. Bon, enfin voilà. Mais tout est comme ça, c'est pour ça que j'ai dit que c'était un polar.
Oui, il y a des surprises. Oui, il y a un côté polar, peut-être. Mais par ailleurs,
parce qu'en plus, qui va obtenir le savoir, qui va comprendre sur l'hélium, on va y revenir, qui va comprendre sur l'atomique, voilà.
Mais oui, je voulais juste dire rapidement que j'allais parler du nazisme, évidemment, parce que c'est ça qui a provoqué ce tsunami, ce ravage de la science allemande et sa dispersion ailleurs. Mais je voulais aussi parler du stalinisme, et l'exemple de Tissa était exemplaire, parce que effectivement, il était victime de l'antisémitisme de Horthy, il s'appelait, je crois.
Oui, maréchal Horthy.
Le maréchal Horthy. Et donc, il a un ami qui s'appelait Edward Teller, qui était un très grand monsieur, et qui va devenir l'un des grands de la bombe atomique américaine et de ses développements. Et donc, Edward Teller lui donne un conseil, c'est d'aller voir ce très grand savant soviétique, si on peut dire, à Kharkov, en Ukraine. Alors, il y va, mais il arrive en plein milieu des procès staliniens. c'est épouvantable, et ce Landau qui l'avait accueilli est incarcéré pour avoir, enfin, une fois de plus, lisé quelle histoire. Et
il faut quand même dire un mot, parce que quand même Landau, donc on est effectivement, comme vous dites, dans ces années-là, il fait quand même un tract contre Staline qui quand même vaut son prison d'or.
Ah ben, il mâchait pas ses opinions.
Donc
ça l'a pas raté. Ouais.
Sauf que c'est surprenant qu'il ait survécu, hein, parce que quand même.
Absolument.
Parce qu'avec ce qu'il écrit, et vous le publiez, d'ailleurs, vous donnez beaucoup de facsimilés et de documents.
Oui, on les a trouvés, les archives.
Ouais. Ah ouais, c'est génial. Ils sont deux, hein, à écrire. Je sais plus comment s'appelle l'autre. Et l'autre, il va passer 20 ans dans le goulag. Et lui, il va réussir parce qu'il a peut-être un savoir-faire, puisqu'il va terminer par le prix Nobel en 62, y reviendra. Oui. Mais Landau, il a un savoir-faire qui fait que, Beria va quand même le protéger.
Oui. Absolument. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est l'argument qu'a utilisé son collègue qui s'appelait Capizza, qui avait été, lui, c'est le contraire, il a été interdit d'émigration. L'argument qu'a utilisé Capizza pour libérer son collègue Landau, qui était ce théoricien qui ne mâchait pas ses mots en expliquant que Staline, en fait, c'était Hitler, quoi. Bon. Alors, il a été directement dans la prison du NKVD, ce qui devait devenir le KGB ensuite. Et donc, il arrive à convaincre Molotov et sans doute Staline en leur expliquant qu'il est en train de découvrir un truc extraordinaire. Alors, si je vous dis que c'est l'hélium superfluide qui est un liquide quantique, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette histoire.
J'ai lu votre livre, donc je sais, mais vous allez le lire tout à l'heure.
Eh bien, il a réussi à convaincre Molotov et Staline qu'il fallait absolument sortir ce malheureux Landau de la Loubianka, là, pour qu'il puisse comprendre la théorie de ce phénomène incroyable auquel on s'est tous intéressés. Quoi.
Voilà, et qui est d'ailleurs votre sujet aussi, un de vos sujets plus exactement. Ouais. Alors donc, ce titre-là, donc, il va avoir, il va venir en France.
Oui, après s'être enfui de la Russie soviétique, tant bien que mal, parce qu'il fallait un visa pour entrer, un visa pour sortir. Puis lui, il avait le sourire, alors il est allé visiter pendant 3 semaines Yalta avec un copain qui était là-bas. Il était de bonne humeur.
Mais d'ailleurs, vous le décrivez comme quelqu'un qui contre vents et marées, je dirais, est plutôt optimiste.
Il était comme ça. On va voir tout à l'heure qu'il arrive à Paris, il rencontre un Allemand qui avait fui l'Allemagne nazie, par exemple, évidemment, qui s'appelait Fritz London, qui lui s'était enfui en passant par l'Angleterre, hein, qu'il avait été obligé de quitter au bout de 3 ans parce qu'il n'y avait plus d'argent pour soutenir sa famille, et qui est arrivé en France. Et lui, c'était le caractère opposé. C'est-à-dire que lui, il était vraiment inquiet. Il avait quitté l'Allemagne en laissant sa mère derrière. Il se demandait ce qui lui arrivait. Et en France, à la montée de l'antisémitisme, c'est-à-dire dès le passage de Daladier au pouvoir, London, il était très, très inquiet. Et il y avait de quoi. Pendant ce temps-là, son collègue, le petit monsieur Laszlo Tisza, il gardait le sourire, en particulier quand Adamar l'a sauvé du Collège de France parce que l'armée allemande, la Wehrmacht, envahissait la France. Lui, il trouvait qu'il faisait beau, qu'on traversait la Loire alors que la Luftwaffe bombardait le pont. Incroyable.
Vous parlez de Daladier, après le Front Populaire, et vous pointez quelque chose qui n'est pas très connu, qui est que finalement, il y a plusieurs camps regroupements qui se font dès 38 sous Daladier, très très vite, qui sont pas très connus, c'est-à-dire qu'on n'est pas on est au début. Alors vous citez Rieucros, vous citez la Rolande,
vous citez le camp des Mille près de Aix-en-Provence, bien sûr, oui.
Et alors on a là des artistes d'un côté, mais on a beaucoup justement de scientifiques, puisque les scientifiques qui sont venus se réfugier en France et qui sont d'origine allemande vont être pointés du doigt.
Oui, j'ai envie de vous dire quelque chose d'un peu plus général que je n'ai pas encore dit à différentes émissions. C'est que, je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi, il se trouve que mes grands-parents et mes parents ont souffert de l'antisémitisme et des massacres qui ont eu lieu. C'était sans doute tellement horrible et insupportable qu'ils nous ont élevés dans une ignorance complète de tout ça. Je ne savais pas où était passé mon grand-père, etc., ni comment mon père avait été exclu de l'enseignement supérieur alors qu'il était un mathématicien brillant. Et donc, c'était peut-être l'époque de la réconciliation, on n'avait pas trop envie de parler de ça, et du coup, moi-même, je ne savais pas grand-chose de cette époque. Et donc, quand je me suis mis à chercher dans les archives avec Diane Dosso et à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et que j'ai découvert que Daladier, prenant le pouvoir en 1938, en ayant donc chassé le Front populaire, s'est vengé, il voulait prendre sa revanche. Et donc les mesures, les lois et les ordonnances antisémites ont été multiples, au point qu'ils ont même créé des camps d'internement. Au départ, c'était pour interner les républicains espagnols, mais rapidement, c'est devenu tous les juifs étrangers, et c'est devenu, pour certains d'entre eux, en particulier le camp des Milles à côté d'Aix-en-Provence, l'antichambre d'Auschwitz. Et moi, je croyais que c'était seulement à partir du maréchal Pétain. Pas du tout. Ça a commencé bien avant, dès le début de 1938, et c'est l'époque où mes deux héros ont découvert que ce liquide incroyable relevait l'hélium liquide qu'on appelle superfluide parce qu'il coule extrêmement facilement. Bon, il fait d'autres choses, il sort tout seul des verres dans lesquels on met, il veut pas bouillir, il s'évapore un peu comme l'effet photoélectrique d'Einstein. C'était mon sujet de doctorat à propos. Bon. Mm-hmm. Et donc, à cette époque où les uns réussissaient à avoir des idées extrêmement originales et puissantes, eh bien, on commençait à interner, à chasser, à exclure les juifs, surtout étrangers, en France. Et donc, ils vivaient dans un danger qui croissait sans arrêt, qui était de plus en plus terrible. Là, j'anticipe un peu, mais l'un d'entre eux, cet Anglais, enfin cet Allemand passé par l'Angleterre, arrivé en France à l'Institut Henri Poincaré, il était de plus en plus inquiet. Et l'autre, pas trop, mais il travaillait. Et en 1938, ils ont publié l'un et l'autre, un, deux, puis trois, puis quatre, puis cinq articles dans la même année, tous très importants, de plus en plus précis, assez variés. D'ailleurs, London faisait aussi de la chimie et même de la philosophie. Donc, vous voyez, c'est quand même un peu, pour le moins, étonnant de voir comment ces grands savants ont survécu au travers de tout ça avant de s'échapper miraculeusement. Ouais.
Alors, il y a, pour qu'ils puissent vivre et être accueillis, il y avait un comité, on reparlera de ça, bien sûr, pour parler de ce qui se passe aujourd'hui, parce que la situation n'est pas réglée sur le plan mondial. Il y a encore des têtes pensantes qui fuient leur pays et qui ont besoin d'accueil. Mais à cette époque-là, il y a quelqu'un dont vous parlez, qui s'appelle Louis Rapkin,
oui.
Qui fait ça clandestinement. Il a réussi à créer un comité d'accueil, d'aide, pour justement tous ces savants étrangers qui cherchent un point de chute.
Et oui.
Vous citez aussi dans votre livre quelque chose que je ne connaissais pas, qui est qu'à un moment donné, on a proposé à Einstein en France qu'il vienne au Collège de France.
Bien sûr, oui.
Et le lendemain.
Bien sûr, je veux dire, oui, je sais, quoi. Oui. Mais c'est pas évident, non.
Non, c'est pas évident, mais surtout, ce qui n'est pas bien connu, c'est qu'une certaine presse française, peu de temps après, tire à boulet rouge sur un communiste, un juif et tout ça qui viendrait au Collège. Oui. Et donc, du coup, il ne vient pas en France.
Effectivement, il a peur. Sur le coup, il est très heureux de cet honneur qu'on lui fait en l'invitant en France. D'autant plus que lui n'était pas encore installé de manière stable aux États-Unis à Princeton. Hein. Bon, enfin, autant que je me rappelle. Et donc, il avait accepté cette offre officielle, nationale, etc. Bon. Et puis devant la levée de bouclier des fascistes français, quoi, disons, il a eu peur et bien sûr, il n'est pas venu.
Mais il y en a d'autres donc, qui peut-être n'avaient pas le choix, n'étaient pas déjà aux États-Unis et ont besoin donc d'une aide. Et je reviens sur Rapkin qui va donc mener tout un comité pour l'accueil des savants étrangers.
Oui, alors là, on peut peut-être dire que l'une des choses qui m'ont intéressé dans ce livre, c'était de comparer l'accueil des immigrés, des savants. Hein, je me suis restreint à ce sujet parce que je ne pouvais pas traiter, il n'était pas question que je traite le monde entier. Bon. De comparer l'accueil en France, l'accueil en Angleterre et l'accueil aux États-Unis. Comment ça s'est passé? Et j'ai vu qu'en fait, pour arriver à accueillir des gens comme ça, il fallait une conjonction de trois sortes de phénomènes. Le premier, c'était qu'il fallait une sorte de comité d'accueil spontané, constitué de savants, disons, courageux, parce que c'est ce que je pense, qui n'avaient pas peur d'exprimer leurs opinions et qui étaient prêts à organiser l'accueil de ces étrangers en fuite qui cherchaient un endroit tranquille pour vivre. Bon. Et donc, ça s'est passé en Angleterre avant de se passer en France, quelques années avant. Donc il y avait un comité qui s'appelait le AAC, ça veut dire Academic Council, qui avait été fondé entre autres par le grand monsieur Rutherford. Rutherford, c'était un prix Nobel de chimie, mais il a eu le prix Nobel de chimie pour la physique, en fait, nucléaire. Bon, c'est-à-dire, pas la bombe, hein, c'était non, pas non. Ça à l'époque, mais c'était la compréhension de la physique à l'époque microscopique. Bon. Alors ça, en France, c'était un peu la même chose. Il s'est créé un comité grâce à un certain monsieur Louis Rapkin.
Je fais juste une parenthèse qui n'a rien à voir.
Je vous en prie.
Savez-vous que la fille de Rutherford a épousé Bob Edwards, le père de la fécondation in vitro?
Ah non, ça je ne savais pas.
Je vous l'apprends. Et donc, fille de prix Nobel et femme de prix Nobel.
Mais tout à l'heure, je vais vous poser une colle pour...
Ah bon. D'accord. Bon, ça commence bien.
Alors, je continue. D'une part, il faut un comité d'accueil. Aux États-Unis, c'était le Rescue Committee, ERC. Bon. Et donc ensuite, ça ne suffit pas. Pour arriver à attirer du mécénat, et c'était le deuxième ingrédient nécessaire, si j'ose dire, il fallait quand même une certaine reconnaissance au niveau de l'État. Donc en France, effectivement, ce comité a été reconnu d'utilité publique par le Front populaire. Bon. Alors maintenant, qui a créé ce comité d'accueil en France? Donc c'était un immigré qui venait de Biélorussie, qui était un biologiste, et qui n'avait pas le droit de montrer son nom. Donc, il se cachait derrière les très grands noms de la France scientifique de l'époque, qui étaient donc
Perrin, Langevin, Jules Curie,
etc. Tous ces prix Nobel variés et gens très connus aussi, le directeur de l'école normale supérieure, Célestin Bouglet, un certain nombre de gens. Bon. Et donc, grâce à ça, de même qu'en Angleterre, un certain soutien de l'État leur a permis d'obtenir du mécénat, ils ont obtenu ce mécénat et donc ils avaient de l'argent pour donner une bourse d'accueil immédiat à ces malheureux savants qui émigraient en attendant un poste un peu plus stable. Alors en France, toujours à l'époque du Front populaire, effectivement, on a pu accueillir ces étrangers en leur donnant tout de suite une bourse de telle sorte qu'ils puissent vivre tous les jours et aussi en profitant de la création du CNRS. Donc le Front populaire, c'est-à-dire en particulier Jean Zay, qui était un ministre absolument admirable, qui a aussi créé le Palais de la Découverte, et aussi l'Observatoire de Haute-Provence, où on a découvert il y a quelques années les premières exoplanètes, c'est pas rien. Bon. Donc le Front populaire a créé le CNRS, après avoir fait la CNRS, enfin il y a toute une histoire de ça, et ça a assoupli l'embauche d'étrangers, ce qui n'était pas si simple avant, disons pour raccourcir, hein. Et donc, c'est comme ça que, par exemple, Fritz London a obtenu progressivement ce qu'on appelle aujourd'hui un poste de maître de recherche ou de directeur de recherche ensuite. Et puis Tissa, lui aussi, était moins connu, donc il a eu quand même un soutien du CNRS. Et donc, c'est ces trois conditions qui ont permis d'accueillir vraiment les gens. Et dans tout ça, Louis Rapkin se cachait parce que c'était interdit pour un étranger d'avoir une action de telle sorte,
oui.
Surtout qui a une allure politique.
Bien sûr. Et on va reprendre dans la deuxième partie de l'émission, on va reprendre avec ce qui se passe aujourd'hui, avec PAUSE, P-A-U-S-E, puisqu'il y a toujours des accueils de savants qui proviennent du monde entier, qui sont dans des situations difficiles. Et puis, d'une façon générale, en dehors de ces gens qui sont vraiment dans une vraie difficulté politique, personnelle, la France, je trouve, moi je le vois en médecine, on n'est pas, c'est pas des exilés au sens qu'on va aborder là, mais la difficulté d'intégrer des gens qui pourraient apporter des choses dans les domaines scientifiques ou médicaux, ça n'a rien à voir aujourd'hui avec ce qui se passe aux États-Unis, la facilité pour, la plus grande facilité, j'ai pas envie de dire la facilité, mais la plus grande facilité. Donc c'est un point de réflexion important parce que on voit bien comment les États-Unis, et on abordera ça tout de suite, ont pu devenir une énorme grande puissance aussi en intégrant toutes ces migrations.
Ils ont effectivement réussi à récupérer l'essentiel des gens qui ont fui l'Europe nazie, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie principalement.
Hein. On va reprendre dans un instant.
Con 18 un jour, l'île toute petite, mais la fée qui l'habite, gentiment nous invite à en faire nous attendons tous pour demain.
France Culture, matière à penser, René Friedman.
Vous êtes sur France Culture, nous sommes avec les grandes figures de la médecine et de la science, avec Sébastien Balibar. Nous étions dans la période du nazisme, la montée du nazisme, de la fuite des savants victimes donc du nazisme qui viennent pour certains au moins momentanément en France, d'autres en Angleterre, la plupart aux États-Unis, et nous allons discuter de ce qu'ils ont découvert tout en étant dans cette situation d'instabilité. Pour prendre un tout petit peu de recul, nous avons écouté Kurt Weill. Et c'est un choix de chansons, enfin de chansons de musique et de chansons.
Oui, c'est une chanson, oui.
Que Sébastien Balibar a voulu, et bien sûr, je me tourne vers lui. Pourquoi ? Pourquoi cette chanson ?
Alors, c'est une chanson que j'aime beaucoup musicalement, mais qui aussi, d'un point de vue sentimental, me touche beaucoup. Pourquoi ? Parce que Kurt Weill a fui l'Allemagne nazie, comme Bertolt Brecht, comme plein de gens. Il est arrivé en France, comme l'a fait mon héros scientifique hongrois, c'est-à-dire, mais 2 ans avant, en 1933, dès 1933. Et là, il a trouvé du travail comme ci, comme ça. Et donc, il a composé cette musique pour une pièce de théâtre qui était donnée à Paris. Et ce que raconte cette musique, c'est Youkali, c'est le nom d'une île dont il rêve. Parce que ce serait le bonheur, la paix, la tranquillité, etc. Et dont il dit finalement qu'elle n'existe pas. Et ensuite, il faut voir qu'au bout de 2 ans, en fait, Kurt Weill, sentant peut-être qu'il serait mieux encore un peu plus loin, s'est enfui aux États-Unis, comme allait le faire mon héros hongrois, Laszlo Tisza, qui allait partir aux États-Unis après la France, voilà.
Pour reprendre ce mouvement migratoire, cette ruche là qui déborde et qui traverse l'océan, c'est vrai que l'accueil de l'Amérique est quand même assez extraordinaire. Pour un de vos héros, dans ce livre, Sébastien Balibar, Savant cherche refuge chez Odile Jacob, London, il s'appelle London, Fritz London, arrive en 1939. Oui. En 1941, c'est Tisza qui arrive aux États-Unis. Rapkin était déjà arrivé. Oui. Le groupe Bourbaki se retrouve, mathématicien, oui, se retrouve
beaucoup
aussi là-bas. Je ne peux pas tous les citer parce que ils sont trop nombreux, mais tous ont une petite note. De suspense et de d'étrangeté, quoi, je veux dire, dans leur action. Il y en a qui restent en France, qui réussissent à rester. Paul Langevin, mais il va passer en prison, puis il va aller en Suisse. Joliot Curie, Irène Joliot Curie, je dirais Marc Bloch qui va décéder. Edmond Boer, dont la famille va être assassinée. Je veux dire, voilà, un peu partout.
Il y en a beaucoup qui ne s'en sont pas sortis. Il y en a aussi beaucoup qui ne pouvaient pas s'enfuir, en particulier parce que on peut croire que l'accueil des États-Unis était plus facile. Non, il fallait des visas qui étaient extrêmement limités pour arriver à embarquer et débarquer aux États-Unis en venant de France. Hein. Et c'est comme ça que plusieurs d'entre eux, donc je pensais tout à l'heure à Otto Meyerhoff, qui était un biologiste, prix Nobel 1922, qui avait été attiré en France par Louis Rapkin, le responsable de notre comité d'accueil. Et ça, c'était début 1938. Et il croyait qu'il allait être enfin tranquille dans un milieu qui lui plaisait. Sauf que, et donc il a demandé la naturalisation française. Sauf que les lois anti-juives se sont aggravées très rapidement.
Très très rapidement.
Quelques mois à peine.
Juillet.
Il y avait des interdits.
En juillet 40, c'est déjà.
Mais oui.
La dénaturalisation commence.
Sûr. Et donc le malheureux, il a fini par être incarcéré au camp des Milles à côté d'Aix-en-Provence. Et il s'en est sorti par miracle parce que le camp des Milles allait devenir l'antichambre d'Auschwitz où on a envoyé tous ces malheureux, mais ils ont eu besoin de transformer je ne sais pas quoi, ils ont libéré les gens qui étaient là pendant quelques temps. Et là, il a réussi à s'enfuir via Marseille et grâce à une autre personne dont je n'avais pas encore parlé, qui s'appelle Varian Fry. Et Varian Fry a aidé beaucoup d'artistes et d'écrivains, etc., à sortir de France par Marseille pendant quelques mois en 1940. Mais le malheureux Meyerhoff, qui s'imaginait qu'il allait devenir français tellement c'était bien en arrivant, eh ben, il a bien failli y passer, quoi.
Alors, nous sommes dans une situation où, sur le plan des physiciens, bien sûr, il y a tout un tas de recherches sur l'hélium en particulier, qui sont vos auteurs favoris. Il y a une grande recherche physique, c'est quand même la bombe atomique, quoi.
Bien sûr.
Et dans la bombe atomique, ce qui est assez étonnant, c'est que vous planifiez bien le décor avec ce qui se passe aux USA, ce qui se passe en France aussi, enfin, ou ce qui va se passer en France après-guerre. Et puis en URSS. Alors, une des premières questions, et vous évoquez la bataille de l'eau lourde, hein, qui est aussi assez extraordinaire. Comment cette eau lourde, qui permet donc si j'ai bien compris, de ralentir les neutrons
de contrôler la réaction nucléaire. Oui.
Donc elle était fondamentale. Elle est fabriquée en Norvège, hein, je crois, dans le Nord.
Oui.
Et qui va être amené par des espions français, entre
guillemets. Oui, histoire rocambolesque.
Rocambolesque. Hein. Mais il y en a plein d'histoires rocambolesques dans votre livre.
Mais oui.
Et va être amené au Collège de France, va rester un peu au Collège de France, sauf que en juin 40, il faut le déménager. Donc ils partent, ça part sur Bordeaux.
Oui.
Bordeaux, ça part sur un bateau.
Oui.
Et là, on met les bidons.
Ouais.
De telle sorte que si par hasard le bateau il est coulé, ça puisse flotter, qu'on puisse les récupérer tellement c'était important.
Vous avez lu mon livre.
Ah oui.
Il y a des épisodes qui sont rocambolesques, effectivement. Alors il faut voir que c'est l'époque où effectivement on a découvert le principe des réactions nucléaires. Ça s'est passé en Allemagne, mais ça a été vraiment compris par une Autrichienne qui avait le malheur d'être juive, qui était Lise Meitner, et son neveu qui s'appelait Otto Frisch. Et donc, ils ont compris ce qui se passait, à savoir que le noyau était cassé en deux gros morceaux, mais surtout que la rupture de ce noyau atomique par un neutron incident produisait trois neutrons, alors qu'il n'y en avait qu'un seul qui arrivait. Et donc, il y avait cette réaction en chaîne qui multipliait le nombre de neutrons, donc de particules très énergétiques, et qui pouvait arriver à une explosion, ou en tout cas à une production d'énergie considérable. Alors, à la même époque, Joliot-Curie, au Collège de France, faisait des expériences du même genre, qui aboutaient au même genre de conclusions. Et puis, il y en avait d'autres comme ça, en particulier Enrico Fermi en Italie, qui a émigré aux États-Unis. Alors, donc, à ce moment-là, il faut voir aussi, excusez-moi, mais une chose de plus avant de parler vraiment de la bombe. Il faut voir que dans une situation qui devenait de plus en plus tourmentée, ces immigrés, où qu'ils soient, ont été certains incarcérés, d'ailleurs en Angleterre, à l'île de Man, pendant des mois, le frère de mon héros, là, Heinz London, au lieu de Fritz London, a été enfermé à l'île de Man parce que c'était la guerre et c'était un juif étranger. Hein. Bon, c'était très complexe tout ça. Bon. Toujours est-il que les autres immigrés étrangers qui étaient Otto Frisch et Rudolf Peierls, qui étaient tous les deux venaient d'Allemagne nazie, ont alerté le gouvernement britannique, étant entendu qu'ils n'avaient pas le droit de s'exprimer en tant qu'étrangers. Ça recommence les contradictions. Alors, malgré tout, ils se sont débrouillés et le gouvernement britannique a immédiatement commencé des recherches pour savoir quel était le danger auquel tout le monde pensait, enfin les gens qui connaissaient ce problème, à savoir que l'Allemagne nazie construise une bombe atomique, ce qui aurait été évidemment une catastrophe mondiale. Alors, aux États-Unis, ça a pris un peu plus de temps, mais c'est un peu la même chose, grâce à une lettre qu'a envoyée Einstein à Roosevelt.
Que vous représentez dans
le
livre.
Que je reproduis,
hein,
tellement voir l'original, c'est quand même impressionnant. Et si Einstein a contacté Roosevelt pour l'alerter et dire « Attention, les nazis sont capables de construire une bombe », eh bien, c'est grâce à trois Hongrois, encore des immigrés, qui étaient les amis de Montisa. Donc, on les rencontre au fur et à mesure que je raconte mon histoire. Qui étaient donc Wigner, Teller et Szilard. Et donc, c'est eux qui ont convaincu Einstein, qui n'était pas particulièrement connaisseur, enfin spécialiste de la physique nucléaire, mais qui avait des relations quand même, et donc qui a permis de contacter Roosevelt, qui d'ailleurs n'était pas simple. Et donc c'est comme ça que progressivement, après quelques essais d'expérience prouvant que c'était possible, les États-Unis se sont lancés dans un projet fou qui était la construction le plus vite possible de l'arme atomique.
C'est le projet Manhattan.
C'est le projet Manhattan au bout de quelques temps. Et là, ils collaborent de très nombreux étrangers immigrés aux États-Unis, et puis en fait, une centaine, même un peu plus d'une centaine de milliers de chercheurs, d'ingénieurs, etc.
Dans 30 laboratoires.
30 laboratoires, voilà, énorme entreprise qui va aboutir à la construction. Bon, alors là-dessous, il y a une question, une remarque que je trouve importante, qui est que ces immigrés, quand ils ont vu que la guerre approchait, etc., bon, ils ont voulu témoigner leur soutien à leur pays d'accueil. Hein. Ils se sentaient obligés d'aider le pays qui les avait accueillis. Et puis, par ailleurs, ils étaient menacés en tant que juifs étrangers souvent, ou en tant qu'étrangers tout court. Hein. Et donc, il fallait qu'ils se protègent contre une éventuelle arrestation. Ou, bon. Et pour se protéger, ils ont collaboré à la recherche militaire. Donc c'est comme ça que Laszlo Tisza s'est engagé dans la Légion étrangère, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être dans l'armée française, et que ce faisant, il a mis sa vie en danger, parce que quand la guerre s'est vraiment déclarée, l'armée française a mis la Légion étrangère en première ligne, et ils ont tous été tués. Bon. Alors, heureusement, si j'ose dire, Laszlo Tisza, il avait une maladie de cœur. Et donc, grâce à Diane Dosso, qui m'a beaucoup décidément aidé à faire les archives de la Légion étrangère, vous vous rendez compte, on a trouvé son livret militaire. Et sur son livret militaire, on a trouvé la raison pour laquelle il a été réformé 3 mois avant d'être assassiné par la Wehrmacht. Alors, c'est vous dire, après, du coup, il a fait de la recherche pour les poudres. Bon. Il voulait vraiment se rendre utile. Et il y en a d'autres qui ont voulu se rendre utile, au point de participer de manière essentielle à la construction de la bombe atomique.
Il y a tellement de choses
oui.
dans votre livre. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Au contraire. Mais je peux que renvoyer nos auditeurs à la lecture de votre livre, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui est parlé. Il y a une question. Alors, il y a des questions de fond, puis il y a des histoires, quoi. Mais la question de fond, par exemple, vous citiez tout à l'heure une femme, Liz Meitner.
Oui.
Alors qu'elle a été vraiment importante, qu'elle a travaillé avec Otto Hahn, qui est resté quand même dans l'Allemagne nazie, quand même eu le prix Nobel quelques années après.
Tout seul en plus.
Tout seul sans la citer.
Et, oui.
Et là, on va retrouver pas mal d'histoires comme ça quand même, et en particulier avec votre héros, Laszlo Tisza, qui lui aussi aurait pu être associé au prix Nobel donné à Landau.
Oui, pour des raisons différentes. Mais,
mais je trouve que là, on voit bien qu'il y a eu un travail qui a été fait qui n'a pas été reconnu. Enfin bon, on en trouve comme ça, on trouve donc un certain nombre de questions. Vous montrez aussi comment, à peu près au même moment et dans la même revue qui s'appelle Nature en 38, Kapitsa d'un côté et puis Jack Allen de l'autre vont trouver à peu près la même chose sur l'hélium, bien que Laszlo Tisza, lui, va développer un concept complètement nouveau.
En fait, c'était pas un hasard qu'ils travaillent tous un peu sur le même sujet, parce que c'était devenu accessible grâce au progrès de, en particulier de la réfrigération jusqu'au zéro absolu. Bon. Maintenant, d'un autre côté, ils ont trouvé chacun des éléments. Aucun d'entre eux n'avait vraiment raison ni tort. Et c'est la somme de ces contributions qui a permis, en tout cas, dès la libération, de clarifier vraiment le phénomène, sa nature et son interprétation. Mais effectivement, c'est compliqué. Déjà à cette époque-là, on était plusieurs sur le même sujet. Et attribuer la paternité à telle ou telle découverte, ce n'était pas simple. Aujourd'hui, c'est encore plus difficile.
En tous les cas, on voit ce foisonnement, en tous les cas, de recherche, dans des conditions épouvantables et difficiles. Et juste après-guerre, on voit aussi qu'il y a quand même des choses. Il y a quelques enlèvements de physiciens allemands qui se font en URSS pour un peu étoffer. Il y a aussi les 10 physiciens, dont Otto Hahn, allemands, qui sont transférés à Farm Hall en Angleterre. Et là, on les met sous écoute pour voir est-ce que oui ou non L'Allemagne était prête à avoir la bombe atomique.
Ben oui.
Stéphanie Balibar, non, plus beaucoup de temps, mais la question elle est-ce que les nazis étaient prêts de l'avoir ou pas?
À mon avis, il ne serait jamais arrivé, mais qu'ils aient essayé de la construire, ça, il n'y a aucun doute. Et c'était une question fondamentale parce que ça a très mal tourné puisque ça a fini par être Hiroshima. Et donc, il était essentiel de comprendre s'il était nécessaire de construire la bombe atomique aux États-Unis. Alors, moi, je crois que c'était nécessaire d'y arriver avant les Allemands. On s'est aperçu par la suite qu'ils n'en auraient jamais été capables, mais qu'il aurait été suffisant de montrer ce que ça donne, et ils l'ont fait dans le désert du Nouveau-Mexique, je crois, de montrer ce que ça donne une bombe atomique qui explose avant de s'en servir. Mais là, M. Truman avait d'autres idées, donc il a décidé de raser Hiroshima et Nagasaki.
Vous dites cependant deux choses. La première, c'est que Tokyo s'est fait bombarder sans bombe atomique et avec plus de morts qu'avec les bombes atomiques.
Oui, bien sûr.
Non, mais c'est juste un fait. Oui. Et la deuxième chose, c'est que à cette période-là, les Russes envahissent une partie importante de l'Asie, les îles Kuriles
et tout ça. Et ça prête à envahir le Japon.
Et ça prête à envahir le Japon. Et donc, finalement, la bombe atomique, il y a peut-être aussi un rôle géopolitique que je ne...
Évidemment. Hein,
mais qui intervient, qui n'était pas forcément...
La nature.
Voilà. Oui. Donc on est au cœur de ce qui constitue notre histoire,
oui.
Avec des côtés positifs, négatifs. Des scientifiques qui, pour la plupart, condamnent l'utilisation militaire, mais non pas l'utilisation civile. Voilà. Et donc, vraiment, je vous invite, chers auditeurs, à lire avec intérêt ce livre, Savant cherche refuge, vous y comprendrez mieux ce pourquoi nous sommes encore là. Voilà.
Merci à vous.
Merci à vous, Sébastien Balibar, et j'espère que vous continuerez à écrire, à chercher, à écrire, enfin, à être sensible
promis,
comme vous l'êtes.
Promis.
et à venir à l'émission. Donc, merci à Catherine Denet, Sandrine Chaperon, Dany Journaud, Claude Niort, Julie Voinchet. Vous pourrez retrouver cette émission toute la semaine sur la série des grands médecins et des grands scientifiques. Vous pourrez utiliser le site internet, mais sachez que nous continuons demain cette série avec Bernard Herny qui nous parlera de Richard Cabot. Surprise, parce que la plupart ne le connaissent pas, mais après l'émission, vous précipiterez sur le livre.